Bonsoir Week-end. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Le débat des grandes voix d'Europe 1, chaque samedi, chaque dimanche, jusqu'à 19h, avec ce soir Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, François Claus, rédacteur en chef, grand reporter à Europe 1, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication et président du MCBG Conseil. Messieurs, bonsoir à
bonsoir.
Tous les trois.
Bonsoir Wendy.
Nous sommes prévenus, ils nous le disent et le redisent, il va falloir vivre longtemps avec le virus, des restrictions à la hauteur, tant que le vaccin ne sera pas trouvé. Comment on analyse cette société en devenir, alors que Jean Castex déclare que les rassemblements festifs, familiaux, ne pourront pas reprendre avant longtemps, et le vaccin est-il vraiment le Graal ? À la une encore cette semaine, vous l'avez peut-être suivi sur BFM Télé hier, l'offensive de Nicolas Sarkozy dans le dossier du présumé financement libyen de sa campagne et la contre-attaque du parquet national financier. On reviendra, sans faire de promo, mais pour expliciter les choses, sur le documentaire Complotiste, le documentaire Hold Up qui circule sur le net en ce moment, film financé grâce à des cagnottes populaires et la remise en question, c'est ça qui est dangereux aussi, de la parole scientifique. C'est une partie du sommaire à 18h34.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Mais avant d'entrer, messieurs, de plein pied dans ce débat, vos choix du moment, coup de cœur, coup de griffe, c'est le petit tour de table rituel. On va commencer avec vous, François Claus. Coup de cœur en forme d'hommage ce soir.
Oui, un hommage à une femme qui nous a quittés jeudi, Nelly Kaplan. Elle avait 89 ans. Son nom de cinéaste ne vous dit peut-être pas grand-chose. Si je vous dis La fiancée du pirate, vous y penserez sûrement. Film culte de 1969. Et je regrette qu'elle n'ait eu droit qu'à quelques lignes dans les journaux. Elle qui a fait ce film absolument fondateur qu'on devrait revoir aujourd'hui à l'époque de MeToo et du combat des femmes. Elle fut l'assistante d'Abel Gance. Elle fut l'amie des surréalistes, André Breton notamment et Philippe Soupeau. Et en 1969, elle a lancé ce véritable brûlot dans les salles de cinéma où une femme, une sorcière magnifiquement incarnée par Bernadette Lafont, qui aurait été en d'autres temps brûlée dans les villages, décide, elle, de brûler les hommes et elle les exploite à sa manière. C'est pas un film social militant, c'est délicieusement surréaliste et c'est un film qui a passé les époques marquées, évidemment, par ces quelques mots magnifiques signés Georges Moustaki et chantés par la grande Barbara.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence.
Elle s'offrait aussi à tous les hommes en se balançant, Bernadette Lafont. J'ajoute que pour moi, adolescent des années 70, Wendy, Bernadette Lafont, c'était tout simplement le fantasme absolu. Moi qui l'avais découvert dans Les Mistons, là, le premier court-métrage de François Truffaut, elle était l'incarnation de ces femmes libres, comme l'était Jeanne Moreau dans Jules et Jim, mais également Claire Bretéché qui nous régalait à l'époque avec Les Frustrés toutes les semaines dans le Nouvel Obs. Bref, ce film-là aurait dû être diffusé sur toutes les chaînes. La fiancée du pirate, hommage à Nelly Kaplan ce soir.
Eh bien, merci. Double hommage, hein. Bernadette Lafont, vous ne l'avez pas oublié. François Claus, merci beaucoup. Frédéric Dabi, alors vous, ce sont les prochaines élections qui vous intéressent cette semaine. Coup de cœur, coup de gueule, coup de griffe.
Je ne saurais pas trop le définir, Wendy, mais ce sont les élections ou plutôt la manière dont la sphère politique et médiatique aborde cette question des élections. Que voit-on depuis quelques semaines ? Il y a des élections régionales dans quelques mois. Mmh. On ne parle très marginalement de ce scrutin à travers l'importance du territoire régional désormais pour les Français, ou au regard du bilan des différents exécutifs régionaux ou des programmes des différentes oppositions, le débat préélectoral se focalise uniquement sur un point, le report probable de 3 mois du scrutin, de mars à juin, épidémie de Covid oblige. Continuons. De la même manière, le prochain scrutin présidentiel n'est évoqué que sous l'angle du duel annoncé Macron-Le Pen, ou plus récemment, du procédé de communication très prudent, utilisé par Jean-Luc Mélenchon, pour légitimer sa troisième candidature, les 150 000 signatures. Enfin, et c'est peut-être le point central, la question de l'abstention, de l'abstentionnisme, semble depuis quelques jours remplacée par un débat sur des nouvelles modalités du vote censées favoriser la participation, c'est-à-dire le vote par courrier, le vote par Internet. Loin de moi, Wendy, l'idée de délégitimer ce débat qui rencontre l'intérêt d'une partie de l'opinion publique. Demain, un sondage IFOP pour le groupe Union Centriste du Sénat sera dévoilé dans le JDD. Il révèle qu'une majorité assez courte, une majorité de Français, appelle de ses voeux ou souhaiterait peut-être des nouvelles modalités de vote.
Toutefois, de vote par correspondance,
vote par correspondance,
sur le modèle américain.
Vote par Internet, avec bien sûr des clivages générationnels. Oui. Toutefois, ce débat technique ne doit pas empêcher une réflexion plus profonde sur les causes de l'abstentionnisme, la crise du résultat depuis plusieurs quinquennats, l'incapacité des politiques publiques nationales à changer d'avis, sans parler de tous ces chocs encaissés par les Français depuis le début de l'année 2020, chocs économiques, chocs sanitaires, chocs terroristes, qui conduisent de plus en plus de Français à se dire qu'il est vain de voter. Donc c'est un débat, je pense, plus que nécessaire dans un contexte où, il faut le rappeler, à chaque scrutin depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, législative 2017, européenne 2019, municipale de mars et juin, c'est l'abstention qui a été le premier parti de France.
Oui, c'est pas pour rien d'ailleurs que ce rapport, cette réflexion a été confiée à Jean-Louis Debré qui recommande et préconise donc de reporter de mars à juin 2021 ces élections régionales et départementales. Merci Frédéric pour ce point aussi très important. Philippe Moreau-Chevrolet, on part aux États-Unis avec
oui.
vous ce soir.
Alors d'abord, je voudrais juste réagir sur ce que disait Frédéric. Oui. On peut faire du vote par correspondance. On pourrait imaginer tout à fait dans une démocratie comme la nôtre, garder les dates d'élection et changer les modalités du vote. Mmh. Donc c'est un choix politique qu'on fait de ne le faire ou de ne pas le faire. Il faut en avoir conscience. Les États-Unis, oui, parce que j'ai un coup de cœur pour Anderson Cooper.
Qui est journaliste.
C'est le journaliste vedette de CNN et il a fait un éditorial absolument fabuleux hier. Il a commencé par parler du président Trump en disant le président est en train de réfléchir au fait de savoir s'il doit accepter sa défaite. Puis là, il s'est arrêté complètement. Il a dit non, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Ce que je suis en train de vous dire n'a aucun intérêt. On s'en fiche du président Trump. La seule chose que nous, on devrait regarder en tant que journaliste, en tant que citoyen dans cette crise, c'est vous, c'est les gens. Comment vous vivez cette crise? Comment ça se passe? On a un nombre record de malades aujourd'hui, c'était hier. On a un nombre record de morts. Et je connais personnellement un petit garçon qui attend de savoir si son père va pouvoir rentrer à la maison parce qu'il est en réanimation. C'est à ça qu'on devrait penser. Et à ce moment-là, la voix d'Anderson Cooper se brise et on atteint une vérité du débat politique américain. C'est une démocratie qui a lutté pour sa survie, qui a réussi en évacuant Trump quelque part à survivre. Mmh. Mais la survie des gens, la vie des gens, aujourd'hui, c'est ça qui importe. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure un maire chez vous. C'est ça maintenant qu'il faut regarder. Il faut sortir du clivage partisan, il faut sortir du clivage politique. On n'a pas le gouvernement le plus compétent du monde pour gérer cette crise, loin de là. Bon, voilà, c'est le nôtre. En revanche, il faut qu'on s'occupe des gens et qu'on essaie d'être bienveillant à l'égard des autres, qu'on essaie de se regarder, d'essayer de faire attention parce qu'on est en train de perdre des pans entiers de notre économie. Mais il y a des gens derrière. C'est pas juste, c'est pas des chiffres abstraits, les restaurateurs qui disparaissent, la livrerie qui ferme, c'est des gens. Donc voilà, c'est cet appel-là que faisait Anderson Cooper. Et je trouvais que c'était l'appel le plus important du moment. Arrêtons tout et regardons les autres, regardons ses voisins, regardons. Oui. Moi, il y a quelqu'un dans mon immeuble, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, qui est Jean-Michel Boris, l'ancien patron de l'Olympia. Il est mort, il était dans notre immeuble. Bah, il y a une cagnotte qui était organisée, tout le monde s'est cotisé pour venir en aide à sa famille. Pour venir... C'est comme ça qu'il faut être. Et il faut arrêter de regarder la politique, il faut être exigeant par rapport aux hommes politiques pour qu'ils fassent leur boulot, mais il faut surtout qu'on regarde les gens et qu'on les aide.
Ah certes, mais qu'est-ce qu'il y a
Je rebondis Philippe sur ce que vous dites, et attendre également, non pas en critiquant ou en adoubant une mesure gouvernementale, ce qu'on peut faire aussi nous en tant que citoyens, ce que vous appeliez, quand on voit l'appel de ce restaurateur de Pontivy, absolument désespéré, qui a lancé pour survivre d'apporter de la nourriture aux gens, ils ne viennent pas chez lui et ils filment la file d'attente interminable des gens devant le McDo. Et bien que les gens n'aillent pas au McDo et à aider également ce restaurateur, ce sont des gestes citoyens aussi qu'on attend au-delà du débat politique.
Oui, notre responsabilité individuelle qui va nous amener à réfléchir justement à ce qui se passe en termes de stratégie individuelle et collective dans la gestion de cette crise après 15 nouvelles journées de confinement. On en parle juste après la pause avec vous Frédéric Dabi, François Claus, Philippe Moreau-Chevrolet dans ce débat des grandes voix sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix, on débat sur Europe 1 jusqu'à 19h. 18h43, après vos coups de cœur, après vos coups de gueule, cette grande séquence de communication, messieurs Frédéric Dabi, François Claus et Philippe Moreau-Chevrolet, du gouvernement sur le front du coronavirus. Il y a quelques heures, message d'Emmanuel Macron posté sur Twitter, dans lequel il rappelle que les prochains jours seront décisifs. Et il rappelle, le président, les 5 gestes pour sauver des vies. Porter un masque, se laver les mains régulièrement, garder une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, aérer les espaces fermés et télécharger tous anti-Covid. On peut en parler d'ailleurs de cette application qui grimpe en utilisateurs. Je viens de vérifier, quasiment 9 millions d'enregistrements nets depuis le mois de juin. C'est bien, bien plus que la première application anti-Stop Covid
qui
avait
n'avait pas dépassé
2 ou 3 millions.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est aussi un reflet supplémentaire de l'inquiétude des Français vis-à-vis de cette maladie.
Et de l'écoute.
Oui, la dernière mesure IFOP pour le JDD donnait un niveau d'inquiétude qui était désormais équivalent à celle mesurée au début du premier confinement. Les Français, je dirais que l'opinion est peut-être mûre dans la mesure où les Français ont intériorisé que une levée du confinement le 1er décembre n'était pas possible. Mmh. Seulement 9% des Français anticipent à un respect total de ce qu'avait dit Emmanuel Macron le 28 octobre. Malgré les entorses au confinement, ça et là, on a quand même 2/3 des Français qui appellent de leur vœu un renforcement du confinement ou au moins de le laisser tel quel. Et sur cette question, il n'y a pas les clivages générationnels ou les clivages de diplômes qu'on a vus par le passé. Une seule exception, l'agglomération parisienne, où on est, alors que les contaminations, je crois, baissent pour la première fois depuis quelques jours. Mais en tout cas, dans un contexte de défiance quand même relative vis-à-vis du gouvernement, les Français, je dirais, sont beaucoup plus mobilisés et beaucoup plus conscients de la dangerosité de ce virus. C'est peut-être le momentum où un message gouvernemental fort sur le mode « on peut réussir à s'en sortir, à vivre avec et à se projeter dans les fameux jours heureux que les Français ne voient absolument pas, d'où leur état d'épuisement », peut-être que ce moment est arrivé.
Oui, j'ai l'impression quand même qu'on nous prépare beaucoup au temps long. Hein, Philippe Bonchevrolet et François Claus, il faudra vivre longtemps avec ce virus. C'est une formule, ça, qu'on retrouve depuis quelques semaines dans la bouche des autorités très régulièrement. Hein.
Oui, alors puis moi, c'est...
François Claus, et après,
Philippe, pardon. Pardon, Philippe. J'ai l'impression qu'il y a enfin la prise de conscience sur le manque d'empathie des messages délivrés jusqu'à maintenant. Le côté perd la rigueur, si je puis dire, dans l'enrobage des mesures prises de Jean Castex ne passe plus. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Hold Up. Il y a une montée des mécontentements, de non-acceptation, tout en étant très responsable, les Français, et Frédéric le disait à l'instant, vis-à-vis de la dangerosité, et prêts à prendre des mesures eux-mêmes. La manière dont on les impose et la manière dont on les enrobe ne passe plus. Et j'ai l'impression que dans ce court message présidentiel qui vient nous rappeler ce que les messages de prévention nous disent déjà depuis à peu près un an, un peu moins d'un an, il y a ce besoin de dire, quelque part, on vous fait confiance aussi. Mais allez, dites-nous que vous nous faites un peu confiance par rapport à ça, et ça a tellement manqué.
Philippe.
Oui, le temps long, c'est un peu la clé de l'épreuve, en quelque sorte. Mais le problème, c'est que ce qu'il faudrait changer, c'est le cap. C'est-à-dire que le gouvernement semble vouloir vivre avec le virus. Et ce n'est pas une stratégie viable, ce qu'il faut littéralement. Ce qu'il faudrait arriver à avoir, c'est une stratégie d'éradication du virus. Et ça, c'est un changement de logiciel qu'ils ne sont pas encore capables de faire, peut-être par compétence ou par connaissance, j'en sais rien. Mais les pays qui réussissent vraiment à maîtriser le virus et qui réussissent à faire redémarrer leur économie, que ce soit des dictatures, des démocraties, des îles ou pas des îles, ça n'a aucune importance. Mais ils ont
plus des dictatures que des démocraties quand même, vos exemples, Philippe. Il y a plus des dictatures qui ont réussi que de démocraties.
Mmh. Oui, mais il y a quand même des démocraties qui l'ont fait. Donc, le problème, c'est que quand on dit démocratie et qu'on cite la Nouvelle-Zélande, les gens vous disent « Ah, mais non, c'est une île, donc on ne peut pas reproduire le modèle ». Donc je ne sais plus quel pays citer, mais ce que je peux citer, ce sont des politiques qui marchent. Les politiques qui marchent, c'est des politiques d'éradication. Donc ça veut dire qu'on ne tolère pas que le virus se développe. On n'attend pas d'avoir 40 000 cas par jour, ce qui est quand même le cas du gouvernement français, avant de se dire que peut-être il serait temps de faire quelque chose.
Et là-bas, on n'a pas de vaccin, hein, pas plus que chez nous.
Ah non, on n'a pas de vaccin, ça veut dire qu'on va faire du stop and go, tel que c'est parti, c'est-à-dire qu'on va se dire qu'on va être très préoccupé à une période et donc on va tout fermer. Après, on va réouvrir, on va faire à peu près aussi bêtement que ce qu'on a fait lors du premier déconfinement, c'est-à-dire on réouvre les vannes à fond parce que la pression est telle qu'on ne peut plus tenir politiquement. Donc on réouvre à fond. Quelques semaines après, on constate que ça revient, donc on va refermer. Et on est capable de faire ça et de flinguer notre économie très rapidement. Alors que les pays qui marchent sont des pays qui disent non, le virus, on va l'éliminer. Voilà. Autant demander des efforts aux gens pour que ça ait un sens. Donc ça veut dire on va fermer les frontières strictement, des quarantaines imposées aux frontières et pas à la cool si tu veux bien faire la quarantaine. Non, c'est imposé. Une application imposée et obligatoire qui permet de tracer les gens et qu'on ne nous raconte pas que ça pose des problèmes de liberté civile. Si vous avez un smartphone, vous êtes tracé par Google, même si le portable est éteint. Vous êtes tracé par Facebook, Twitter, par Snapchat, par toutes les applications. Snapchat peut-être
Frédéric
un peu moins.
Dhabi. J'entends ce que vous dites, Philippe, et ça se tient bien sûr sa stratégie d'éradication. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'épuisement de l'opinion publique avec trop les chocs qui ont été vécus le sentiment que le gouvernement de plus en plus s'immisce dans la vie privée, la sphère intime. Si on rend obligatoire une vaccination, si on rend obligatoire le téléchargement d'une application, là c'est intéressant de voir qu'elle marche alors qu'il y a eu seulement des paroles. Il y a eu le contre-mauvais exemple de Jean Castex qui finalement a peut-être créé une sorte de prise de conscience sur la nécessité de refondre Stop Covid qui est devenu tous anti-Covid. Mais je pense que des mesures trop coercitives, le tissu social n'a jamais été aussi fragile. Et les Français n'ont jamais été aussi épuisés et l'incertitude, l'incapacité à se projeter, même si, et je vous rejoins, c'est lié à ce stop and go, ne doit pas être sous-estimé.
Mais ce n'est pas la coercition qui crée ça, c'est l'absence de cohérence. C'est la non-explication.
À la pointe de cap, je suis d'accord.
On va laisser ouvrir les grandes surfaces, qui sont des lieux qu'on ne peut pas aérer, où il y a des queues, où il y a des rassemblements de gens. On pourrait les passer en drive. Non, on va les laisser ouvertes et on va fermer le petit commerce à côté de chez nous, qui est contrôlable par la police municipale, qui est aérable. où le mec se défonce pour appliquer des consignes de sécurité débiles puisqu'on lui retire et qu'on lui dit qu'il ferme.
Mais ça, c'est ce qui va être retenu pour la suite, peut-être. Moi, je pense que... Je pense, Philippe, que l'alternative, là, quand vous disiez rouvrir, fermer à fond, il y a ouvrir un peu, ouvrir moyennement, ouvrir... Et tout comme les scientifiques continuent à apprendre autour de ce qu'est l'évolution de ce virus, les politiques vont apprendre petit à petit un dosage des politiques par rapport à ça. Et moi, je pense qu'entre la fermeture complète que vous évoquez ou la réouverture complète, il y a un modus vivendi à trouver que cette période que nous sommes en train de vivre nous aidera peut-être à définir pour le printemps.
Vous parliez de cap, messieurs. Juste un mot, parce que j'ai le sentiment quand même que le Graal du vaccin, l'horizon de cette couverture vaccinale sert un petit peu de direction et de cap au gouvernement. Tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu. On l'attend, ce vaccin, alors qu'il n'est peut-être pas totalement efficace demain, qu'il ne protégera pas peut-être les contaminations, mais c'est comme si c'était un petit peu le Graal, Frédéric Damien,
oui,
agité pour faire
Graal
confiance.
Le Graal est pour la première fois une petite lumière au fond du tunnel, parce que le discours churchillien, ça marche, mais s'il n'y a pas de perspective, c'est absolument compliqué. On a vu dans nos enquêtes à quel point cette annonce de Pfizer a été complètement mémorisée, très fortement, restituée par les Français. Il faudra aussi, c'est peut-être des thèmes qu'on va aborder un peu plus tard, battre en brèche toutes les théories complotistes et, les mobilisations anti-vaccins qui gagnent beaucoup de terrain en France.
On va y aller sur les thèses complotistes. Hold up, il n'y a pas que le virus qui circule, il y a aussi ce film Hold up, comme celui qu'auraient réalisé les autorités mondiales sur nos esprits en nous faisant craindre le pire, mais qui, hélas, arrive, la mort si nous ne protégeons pas du coronavirus. Plusieurs centaines de milliers de vues depuis mercredi, en ligne, extrait.
On a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre.
Vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande cause de corruption sur la planète, même avant les bâtiments de travaux publics.
Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie.
Les laboratoires, le capitalisme, la musique qui fait peur. Pendant 2h40, je me suis arrêtée à 1h. François Claus, j'ai pas tenu davantage. Vous l'avez vu, vous, ce film Hold Up, enfin ce documentaire.
En accéléré pour le moment. Donc, oui. En accéléré, on mesure déjà ce que c'est. On est dans un débat très compliqué là, Wendy, entre la liberté d'expression totale, le droit totalement sain, nécessaire, de remettre en cause une parole officielle, et la très dangereuse manipulation des âmes dont on a mesuré dans l'histoire. Il y a tout juste un siècle, quelle horreur elle pouvait revêtir. Ce qui se passe là, si vous voulez, c'est qu'on demande aux scientifiques une vérité. Or, par définition, et reprenez les propos par exemple du philosophe Étienne Klein, la science est avant tout doute avant d'être et de devenir certitude. Et qu'aujourd'hui, on n'accepte pas cette période de doute. On n'accepte pas qu'un scientifique sur un plateau vienne nous dire « là, je ne sais pas ». On va écouter celui qui nous dit « je sais », alors qu'il ne sait pas. Étienne Klein nous rappelle qu'au mois d'avril dernier, on a fait un sondage sur la chloroquine. On demande aux Français, pensez-vous que ce traitement est efficace? Eh bien, vous avez 59% des Français qui disent oui, 20% qui disent non, 21% seulement qui disent je ne sais pas. Ça veut dire qu'on a 80% des Français qui répondent affirmativement ou négativement à une question dont personne n'a la réponse.
Mais c'est ça.
Et c'est sur cette faille-là que se développent des films comme Hold Up. On a toujours été confrontés, nous, en journalisme, face à une vérité noire, une vérité blanche, et on découvre une vérité grise. Le film est parti d'un postulat, on va poser des questions, et il arrive en fait sur des certitudes et de venir dire qu'il y a un complot. Donc c'est inadmissible. Regardez peut-être le film pour vous faire une idée, mais allez lire par exemple Les Décodeurs du Monde. Ils vous montreront 7 points très précis sur lequel le film développe des idées totalement fausses, à commencer par les camps d'internement Covid au Canada, par exemple. Ce n'est qu'un exemple.
Oui, complètement. Frédéric Davy.
Ce que dit François est tout à fait juste. Il faut voir quel écosystème permet le succès de ce film. D'abord, la fragilisation pendant cette crise du Covid, Wendy, extraordinaire, de la confiance dans la parole scientifique. Les gens ont vu sur les plateaux de télévision, dans un contexte où ils étaient très sensibles à toute information, très avides, une division assez extraordinaire de la communauté scientifique. Je rappellerai, il y a quelques semaines, deux scientifiques qui se sont écharpés sur deuxième vague, hors note, si je puis dire, deuxième vague. Deuxièmement, et ça a été très bien dit dans votre petit extrait, court mais qui explique très bien les choses, le clivage gros-petit. C'est-à-dire que ce documentaire s'appuie peut-être moins sur une division, sur une logique complotiste, même si ça donne à voir, à expliquer des choses, que voilà, le monde, il y a des gros qui en profitent et qui sont là pour écraser les
Tout
petits.
À fait. C'est,
C'est parfois vrai, mais c'est rendu de manière complètement systémique. Et on voit dans nos enquêtes, on mène des enquêtes régulières avec la Fondation Jaurès et Conspiracy Watch sur le complotisme. Il y a des segments de la population qui sont très perméables à ce type de discours, notamment le discours gros-petit, discours complotiste, les jeunes, les catégories populaires et les personnes qui ne s'informent que par Internet.
Et la preuve du financement de ce film, Philippe Monchon, voilà, c'est intéressant de voir comment il a grandi.
Voilà, la bonne question à se poser, c'est quand même qu'est-ce qui vous permet, si vous croyez en ce film, ce qui est votre droit absolu, qu'est-ce qui vous permet de faire confiance plus aux auteurs de ce film qu'à d'autres personnes? Quel est le critère qui fait que vous n'interrogez pas les auteurs de ce film? Et pourquoi vous allez interroger Wendy Bouchard ou, je sais pas, Nico Staliagas? Pourquoi vous allez plus... Voilà, c'est la bonne question, parce que les auteurs de ce film, probablement, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas non plus qui a financé ce film. Et vous ne savez pas vraiment qui sont les personnes qui parlent, qui d'ailleurs, dans le cours du film, changent parfois de titre ou de qualificatif. Un professeur de truc devient un professeur de machin.
C'est vrai.
Alors, c'est la bonne question à vous poser quand même. Vous avez un esprit critique, c'est génial. Exercez-le aussi par rapport à ce film. Ensuite, moi, je pense que c'est une expression, une volonté de se rassurer le complotisme. Parce qu'au fond, au lieu de subir un truc qui nous échappe totalement, et la réalité du virus, c'est qu'on le subit. C'est que s'il pouvait, Macron n'aurait plus de virus, parce que ça lui simplifierait la vie. Mais le virus est là. Donc à un moment, on est obligé de se confronter à la réalité. C'est plus confortable quelque part de se dire que tout ça est une fabrication humaine. Qu'à la limite, on est responsable, nous, en tant qu'être humain, du virus. On est responsable, nous, en tant qu'être humain, du changement climatique. C'est beaucoup moins angoissant parce que finalement, il suffirait de trouver des coupables, de les punir, de retirer la prise.
On aurait la maîtrise.
Et on n'aurait plus le problème. Ben, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité est très angoissante.
Allez, on en a assez dit sur Hold Up, mais merci pour vos explications. 18h56.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Avec cette offensive hier sur BFM Télé de Nicolas Sarkozy, deux jours après le retrait surprise des accusations de Takieddine sur un présumé financement libyen de sa campagne, l'ancien président contre-attaque.
Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas commises. Et les Français doivent le savoir, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute ai-je fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri. Et ce qui m'est infligé est un scandale, madame, qui restera dans les annales. La vérité finit toujours par triompher. C'est ma conviction. C'est ça qui me rend optimiste. Pour le reste, j'irai au procès, je répondrai à toutes les questions et j'expliquerai en quoi le sort qui m'est réservé est un sort qui n'est réservé à personne d'autre.
La contre-attaque de Nicolas Sarkozy face à Routel Krief, que faut-il retenir de cette heure d'explication, de ses ressorts de communication, Frédéric Dabi?
D'abord, une logique de mobilisation très forte des soutiens de Nicolas Sarkozy. Dans tous les baromètres de l'IFOP, le dernier pour Paris Match, on voyait qu'il était premier chez les sympathisants de droite, 89% de bonnes opinions chez les sympathisants des Républicains, 90% dans l'électorat Fillon. Plus que jamais, il y a une sorte d'iconisation de Nicolas Sarkozy. Et puis là, il avance un argument très fort qu'il faut avoir en tête. Il n'a jamais été condamné. Malgré 5 ou 6 mises en examen, il n'a jamais été condamné. Et tout cela, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Plus que jamais, presque 8 ans après sa défaite de la présidentielle, Nicolas Sarkozy reste un acteur politique insubmersible, incontournable à droite et qui, même à gauche, commence à être moins perçu comme un homme politique que comme un personnage historique avec sa relation avec Emmanuel Macron. Et les deux cèdent, les deux s'auto-entretiennent, si je puis dire, pour occuper ce champ politique.
Alors on a cette communication, cette défense, François Claus, on a aussi le parquet national financier qui ne lâche rien, hein, qui argue que les charges contre lui ne se limitent pas aux déclarations de Takieddine.
C'est un peu ce qui me gêne, parce que si Takieddine disait la vérité, c'est terrible. Le même homme qui disait la vérité aujourd'hui revient là-dessus et on lui dit, donc je suis innocent. Non, il y a d'autres chose. Il y a 6 ans et demi d'instruction, il y a un dossier absolument énorme qui tient parfois plus d'une série. Il faut se souvenir quand même qu'on a Béchir Salé qui a été victime d'une fusillade en Afrique du Sud, lui qui était le grand argentier du régime Kadhafi. On a l'ancien premier ministre libyen, Monsieur Choukri, qu'on a retrouvé mort d'une crise cardiaque dans le Danube. Tout ça fait des éléments qui ne font pas un dossier d'accusation contre Monsieur Sarkozy, mais font un dossier très lourd et très complexe sur lequel il y a autre chose que les déclarations de Monsieur Tiakédine taquédine seulement, mais un faisceau d'éléments très étranges. On ajouterait la disparition de Kadhafi elle-même dans des circonstances très bizarres en mars 2011 du côté de Sirte. Bref, tout ça, ça ne fait pas un dossier avec des preuves, des éléments à charge, mais ça fait un climat qu'il est difficile de balayer d'un seul revers de main et d'accuser un seul homme, M. Tournaire,
oui.
D'autant plus que deux juges d'instruction sont en charge du dossier et que devant ces deux juges, en janvier dernier, c'est-à-dire il y a 9 mois, M. Taquedine n'était pas revenu sur ses déclarations.
Tout petit mot sur le sujet.
Deux remarques. La première, c'est que les procès aujourd'hui se déroulent autant dans la presse que devant le prétoire.
Clairement.
Mais que s'il peut gagner effectivement la bataille de l'opinion, Sarkozy irrite au plus haut point les juges et en général se fait tacler par les juges encore plus quand il utilise cette stratégie. Et puis le troisième point, c'est qu'on sait vraiment, on se dirait dans une série ou alors dans Le Parrain 2. Souvenez-vous de cette scène où un témoin se rétracte et ça permet à Al Pacino de s'en sortir. Bon, on n'est pas dans le cinéma, là, c'est quand même la vraie vie. Donc, y a des vrais juges et il y a des vraies conséquences. Donc, on verra, mais le dossier, effectivement, est très épais. Puis, ça fait quand même longtemps qu'il est poursuivi, Nicolas Sarkozy. Et un jour, il va être rattrapé peut-être par quelque chose. C'est pas... Voilà, il n'y a pas une immunité automatique des anciens présidents de la République. C'est pas souhaitable.
Philippe Moreau-Chevrolet, François Claus, Frédéric Dabi, les grandes voix d'Europe 1. On vous retrouve demain, 18h30, 19h. Merci beaucoup, messieurs.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.